BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 9h passé de 57 minutes. On est de retour sur le plateau des experts avec toujours autour de la table Ingrid Barra, économiste spécialiste des finances publiques. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord. Et Leonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments et délégué général de l'Open Internet Project. On va parler souveraineté numérique en fin d'émission. Mais d'abord, je voulais qu'on revienne sur cette proposition du MEDEF, l'organisation patronale, propose de transférer 30 milliards d'euros de cotisations vers la TVA, la CSG, et puis aussi de faire quelques économies. Ingrid, vous êtes spécialiste des finances publiques, Ingrid Barra. D'abord, est-ce que c'est possible? Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est la TVA sociale. La dernière fois qu'on a essayé, ça n'a pas beaucoup réussi au gouvernement. C'était Jean-Louis Borloo. En 2007, juste après l'élection présidentielle, la droite s'était pris une tannée aux législatives en proposant la TVA sociale. Bon, peut-être d'abord nous présenter ce que souhaite faire le MEDEF. De quoi on parle dans ces 30 milliards?
Alors, on parle d'une idée assez classique qui est d'augmenter la TVA pour tout le monde. Donc, ça veut dire les actifs, les inactifs, les étrangers aussi. Hein. La France est encore un pays touristique.
100 millions, oui. 100 millions de consommateurs étrangers.
La France est encore un pays touristique, on a encore cet atout-là. Pour alléger les charges sur les travailleurs, et notamment la CSG, qui est un symbole d'une cotisation qui était censée être petite et
1% voilà, à sa création par Michel Rocard.
Et temporaire, et qui est aujourd'hui à 9,2, qui est plus élevé sur tous les actifs jusqu'au niveau du SMIC que sur notamment les retraités ou en tout cas les inactifs, quel que soit leur niveau de revenu, et qui est fléché à la sécurité sociale en portant sur le travail. Et derrière ça, il y a un problème de vocabulaire qui est que la contribution sociale, et d'ailleurs et le Conseil constitutionnel et l'INSEE sont parfaitement d'accord là-dessus,
et c'est un impôt ou une
parfaitement basique
sociale.
Ce n'est pas une cotisation puisqu'elle n'ouvre aucun droit particulier. En réalité, même plus généralement aujourd'hui, la sécurité sociale a plutôt dérivé vers un modèle très universaliste où en fait les travailleurs n'ont aucun droit en plus de ceux qui ne cotisent
pas. C'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ça, c'est-à-dire payer des cotisations ou payer une assurance, quoi. Hein, est-ce que c'est universaliste ou est-ce que je paye pour des droits
Et donc dans cette TVA sociale, si je le dis assez rapidement, il y a deux éléments. Il y a un élément de vérité du financement du modèle social. Et ça, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de prise de conscience de cet élément-là.
C'est-à-dire un élément de vérité?
Un élément de vérité sur le fait que le système social aujourd'hui, notamment le système de la santé, bénéficie à tout le monde, que ce soit les inactifs, donc les retraités, les actifs, les personnes qui n'ont pas d'emploi, donc très peu de revenus, les étrangers, y compris les étrangers en situation irrégulière, et fait un grand paquet avec même des suppressions de franchises pour les personnes qui ont peu ou pas de revenus et donc qui ne cotisent pas par définition. Et on est passé d'un modèle qui est initial de caisse
assurantielle
avec une association patronale à quelque chose de très universaliste et donc qui a quand même vocation à être payé par l'impôt. Ce serait plus juste envers les travailleurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce serait aussi tout simplement plus efficace parce qu'effectivement, avant de dépenser, il faut produire.
Donc, il faudrait sortir les cotisations patronales et salariales, les cotisations maladie. On en parle aussi beaucoup pour les cotisations famille, dont on se demande pourquoi elles reposent sur le travail, pour les transférer vers l'impôt.
C'est ça ce que voudrait la logique démocratique et la logique économique.
Alors, oui, juste parce que c'est une proposition que un certain nombre de... Enfin, moi, j'ai signé une tribune avec Gilles Attaf, le président d'Origine France Garantie en faveur de cette TVA qui viendrait capter effectivement quelques dizaines de milliards de la production, c'est-à-dire du travail, vers la consommation. Parce que derrière, il y a aussi cette idée-là, c'est que l'ensemble de nos dépenses sociales repose exclusivement sur le travail, alors pas totalement exclusivement parce qu'on a commencé un peu ce type de transfert, mais de le porter beaucoup plus vers la consommation. Pourquoi? Parce que tous les produits que nous consommons et que nous importons, avec une balance commerciale extrêmement déficitaire, sont des produits qui ne portent en rien la charge de notre protection sociale, qui est aujourd'hui la première dépense de notre pays, la première charge que nous avons à supporter. Et donc, comme le travail supporte l'ensemble, le décalage qu'il y a entre le salaire net et le salaire brut est un décalage tel que tous ceux qui rentrent dans le monde du travail, eh bien, peinent énormément à voir la différence dans leur vie, perdent en valeur travail, non pas la valeur, j'allais dire, sentimentale ou émotionnelle ou
la valeur sonnante et trébuchante.
Mais la valeur sonnante et trébuchante et la stimulation au travail étant, j'allais dire, déréliction totale. Donc, il n'y a pas uniquement un transfert de compte, c'est pas uniquement un sujet comptable, c'est remettre.
On a un peu l'impression, c'est ça,
non,
c'est de la tuyauterie fiscale au social,
mais je voudrais.
De l'autre.
C'est pour ça que je. Non.
Bon, le travailleur
non.
est aussi un consommateur, donc
non.
s'il finit par payer
non.
en TVA ce qui
non.
est payé, pesé sur son salaire.
Non, pardon, vraiment, je voudrais vraiment y insister, c'est pas simplement comptable, c'est que vous avez la volonté de mieux rémunérer le travail, et le différentiel que vous allez perdre sur la consommation, parce que la TVA sur les produits de grande consommation, c'est pas la TVA alimentaire dont nous
oui.
parlons, c'est la TVA à taux normal.
Oui.
Donc cette TVA-là va effectivement remonter un peu, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir 100 millions de touristes qui vont contribuer également payer cette facture-là. De surcroît, les 2%,
ainsi que les importations.
2% d'augmentation de la TVA, c'est pas 2% d'augmentation des prix, c'est 2% d'augmentation de cette fraction de TVA, donc c'est une augmentation beaucoup plus faible des
c'est
prix.
C'est 2% de 20%.
C'est 2% de 20%, absolument. Donc vous avez, ça se transforme en pouillème sur, les produits de consommation. Donc entre ce que vous allez gagner en pouvoir d'achat grâce à l'augmentation de votre salaire, parce que les cotisations ont baissé, et le peu que vous allez perdre sur la consommation, on est totalement gagnant, et ça remet du carburant dans ce facteur essentiel dont notre pays a besoin, qui est la valorisation du travail, ce qui est le moteur de la production et de notre conquête industrielle.
Si on augmente le point de TVA, Léonidas, mais je ne pense pas que ce soit 2% des 20%. C'est qu'on passe de 20 à 22.
De 20
et donc
à 22.
Et donc, c'est 10% d'augmentation
c'est
de TVA.
D'accord, mais pas 2% des prix de l'ensemble.
Enfin, certes, absolument. Dany Lang.
Alors, là, cette fois, on est en désaccord absolument radical. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis d'accord pour dire qu'on a fini par faire un système universel. Mais c'est déjà dans l'intérêt des Français que le système soit universel. Les maladies, elles s'arrêtent pas aux gens qui sont salariés et qui travaillent. Ça touche et la vieillesse non plus. Ça touche leur famille, ça touche leurs proches, ça touche les gens qu'ils croisent. Donc c'est aussi dans l'intérêt collectif d'avoir le moins de gens malades possible. Les microbes, ils choisissent pas entre eux, les personnes.
Mais du coup, ce qui pose la question du financement, effectivement, qui au départ reposait sur les travailleurs dans des caisses professionnelles, et si ça maintenant bénéficie à tout le monde, c'est l'évolution. Et
sauf
c'est
que la sécu,
peut-être que
telle
tout le monde
a été
doit
pensée,
y contribuer. C'est ce que souligne Ingrid Barra.
Sauf que la sécu, telle qu'elle a été pensée par Ambroise Croizat et mise en œuvre par le gouvernement du général de Gaulle, c'était l'idée. C'était l'idée de départ, que ça bénéficie à tout le monde de manière égale, etc., et que ce soit des cotisations. Et les cotisations, c'est pas une charge, la cotisation, c'est une part de salaire qui est socialisée. Donc, on peut regretter l'écart entre le salaire brut et le salaire net, mais dans les pays où il y a moins d'écart, les gens payent, je suis désolé de le dire, un pognon de dingue en assurance complémentaire privée. Et la première dépense de ces assurances complémentaires privées, c'est de payer des avocats pour ne pas indemniser les gens. Donc, moi, je préfère avoir un système public qui soit généreusement financé. Après, laissez-moi finir. Donc, le système public qui soit généreusement financé, mais par ailleurs, je reconnais qu'il y a un problème, effectivement, de financement de ce système.
Disons que ça pèse sur le pouvoir d'achat des travailleurs, quoi.
Mais la TVA, elle pèse encore plus sur le pouvoir d'achat. Et quand on regarde, on parle souvent de matraquage fiscal, mais quand on regarde les impôts qui sont payés selon le décile auquel vous appartenez, qui c'est qui paye le plus? C'est les gens qui sont tout en bas. Ils ne payent pas d'impôts sur le revenu, mais ils payent la CSG, la TVA, les impôts sur l'essence, les impôts sur le gaz, etc., etc. Les classes moyennes. Et puis finalement, quand vous dépassez les 90%, ça chute. Et ça chute pas au même endroit selon les pays. Et je renvoie à l'excellent travail qui a été fait par Monsieur Zucman sur commande du G20 en 2024. Qui montre ça très bien en France comme ailleurs. Donc, accroître encore la pression fiscale des gens qui sont en bas et classes moyennes, tout en, par ailleurs, faisant semblant de redonner ça aux salariés, parce que je suis pas sûr, à mon avis, derrière, c'est les mutuelles qui vont peser de plus en plus lourd. Je suis pas sûr que ce soit une bonne
idée. Il y a deux questions importantes que soulève Dany Langlas. C'est un, ce qu'on entend souvent, hein, c'est qu'augmenter la TVA, c'est injuste. Et deux, est-ce qu'un allègement de cotisation renforcerait forcément le salaire des actifs, Ingrid Barra?
Deux points. Le premier, c'est que dans les travaux de Monsieur Zucman, toutes les cotisations sont bien prises comme des impôts, c'est-à-dire quelque chose dont vous ne revoyez jamais la couleur. Et donc, vous venez de souligner à juste titre que, effectivement, l'idée du salaire différé tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans une sécurité sociale universelle est une idée fantoche. Ce n'est pas la réalité. Oui. C'est pas un salaire qui vous est personnel et que vous retrouvez selon une équation fixe fiable. Ça c'est pas vrai.
Si vous êtes malade et vous le retrouvez quand vous prenez
dans
la retraite,
le travail de Monsieur Zucman, donc c'est bien un impôt et donc c'est le voisin qui le retrouve, ou peut-être vous ou peut-être pas. Et aujourd'hui, ce qui va plutôt dans le sens de la proposition, c'est que sur la TVA que vous payez, il y a un quart qui va déjà à la sécurité sociale, donc on est déjà dans un financement par l'impôt.
Ça, c'est
et
vrai.
En fait simplement un financement pragmatique, c'est-à-dire que ce qui a longtemps été fait, et c'est le cas de la CSG, c'était de penser que si on pouvait grappiller un petit peu sur les salaires, qu'il y avait une croissance, puisqu'il y avait un peu de productivité, il y avait un peu de marge, et on se disait qu'en grappillant, on pouvait essayer d'éviter effectivement ce choix entre pouvoir d'achat et protection sociale. Ça ne marche plus du tout aujourd'hui pour les salariés, parce qu'effectivement, pour répondre à votre question sur le fait que ça se retrouve dans les salaires, c'est une des données économiques les plus stable.
Oui.
À travers les décennies et à la fois à travers les économies avancées, qu'il y a un partage entre le capital et le travail, donc deux tiers pour le travail un petit peu plus et un tiers pour le capital, et que dès lors qu'il y a des modulations fiscales, ça se retrouve dans la poche des salariés quand c'est en leur faveur, et à l'inverse, quand c'est des cotisations qui augmentent, ça freine leur salaire net.
Je voudrais aller au bout du désaccord avec Daniel. Je trouve que c'est un désaccord intéressant. Hein. Il est intéressant parce que dans l'idée, l'idée était belle. L'idée, vous citez effectivement les pères de la sécurité sociale, mais vous voyez bien qu'avec l'explosion des dépenses sociales, avec ce salaire différé qui n'a fait que croître, avec le fait qu'il ne pèse que sur le travail qui est réalisé en France, c'est-à-dire qu'il ne se répercute que sur les prix des produits fabriqués en France. Nous sommes arrivés à cette folie qui est que, pour une part considérable, les produits sont plus compétitifs quand ils viennent d'ailleurs. Donc, nous avons une balance commerciale qui est totalement déséquilibrée. Donc, nous avons du travail qui est perdu. Donc, puisque nous avons du travail qui est perdu, l'assiette sur laquelle repose notre protection sociale est de plus en plus réduite. Et donc le modèle repose sur de moins en moins de gens, il pèse sur eux de plus en plus, et donc on est rentré dans un cercle vicieux. Donc la question que nous nous posons n'est pas de savoir si l'idée d'origine était belle ou pas, je veux bien partager avec vous qu'elle était belle. Je dis simplement qu'elle est en train de ruiner, et qu'on ne bâtit pas un modèle social pérenne, durable, sur un pays ruiné. Donc ce que je vous propose, c'est que nous puissions nous retrouver sur la beauté de l'idée et que l'on essaie de voir comment on peut sauver l'idée en la corrigeant par rapport au dysfonctionnement auquel on assiste, qui nous saute à la figure. Et là où je ne vous comprends plus, c'est comment nous ne pourrions pas nous retrouver pour sauver le modèle en le corrigeant, et où vous voudriez vous accrocher au modèle quand bien même ça serait le radeau de la méduse.
La réponse de Dany.
Alors, non, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir. Je suis d'accord avec une partie des choses que vous avez dites, c'est-à-dire sur les importations, effectivement, vous avez tout à fait raison, mais il y a d'autres manières de corriger les choses, et notamment, je suis désolé, c'est pas une idée très populaire, ça marche pas très bien aux États-Unis, mais le protectionnisme, en fonction des droits sociaux qui sont accordés dans les différents pays, ça peut se mettre en œuvre.
Cette augmentation de TVA est une part de réponse protectionniste.
Sauf qu'elle s'applique indifféremment à tous les produits qui soient fabriqués en France ou non. Donc, c'est la différence. Moi, effectivement, j'ai envie d'instaurer une taxe kilométrique qui est déjà partiellement en œuvre, mais qui soit écologique. Et puis, j'ai aussi envie d'instaurer une taxe sociale qui soit inversement proportionnelle à des indicateurs qui sont certes imparfaits sur les droits sociaux. Par ailleurs, l'un des problèmes...
Une taxe sociale sur les droits sociaux, je vois...
Une taxe, une taxe qui soit inversement proportionnelle aux droits sociaux dans le pays d'origine. Et comme le soulignait très
pour justement... Pour la TVA ou pour la CSG, c'est-à-dire des impôts proportionnels, mais qui seraient du coup progressifs.
Non, sur les produits importés, les pays qui ne respectent pas les droits sociaux payent plus de droits de douane que les pays qui respectent les droits sociaux. D'ailleurs, comme le soulignait à juste titre dans son livre Denis Père, c'est pas mon Denis Père souligne à juste titre qu'on est en concurrence, on est dans un capitalisme 3-0, on est en concurrence avec le capitalisme 1-0, ça va pas. Donc à un moment, on corrige par des droits de douane.
Donc des droits de douane en fonction de. D'accord.
Donc et l'équilibre du système, je suis désolé, mais le problème majeur. Effectivement, c'est que l'équilibre du système aujourd'hui est assuré par un nombre de travailleurs de plus en plus faible et parce qu'on a accepté aussi, depuis 40 ans, d'avoir constamment 3 millions de chômeurs officiels. Quand on prend les gens qui sont en travail contraint, partiel, qui aimeraient travailler à temps plein, on arrive à 5 millions. Si ces gens travaillaient à temps plein et si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes, l'un ou l'autre, le régime serait largement équilibré. Enfin, dernier argument, moi je suis alsacien, en Alsace-Lorraine, le régime est équilibré, on paye un peu plus de cotisations sociales, personne n'est mort.
Ingrid Bas. Vous n'avez pas l'air tout à fait convaincue.
Non mais en fait c'est marrant parce que sur ce raisonnement sur les importations, je crois que je vois ce que vous voulez dire, mais si en fait on suit le raisonnement, il faudrait imposer aux importations un écart de taxation qui correspondrait à l'écart entre en gros la fiscalité française et la fiscalité étrangère, puisque c'est
non, de la fiscalité, le respect des droits sociaux,
c'est de la fiscalité sociale pour l'essentiel, si je suis votre raisonnement. Et donc en fait ce serait un renchérissement assez significatif, hein, puisqu'on est évidemment le pays le plus
les plus
taxés du monde. Et en fait, ce que vous proposez revient en quelque sorte à la proposition, mais par des voies détournées, c'est-à-dire qu'évidemment, on augmenterait très significativement le coût des prix importés, je ne sais pas, peut-être d'une dizaine de pourcents au moins, et donc ça se retrouverait dans le pouvoir d'achat de tous, y compris...
Pas sûr, parce qu'on a des entreprises françaises qui sont très bien, vous savez, et qu'il va falloir développer.
Oui, mais la TVA sociale fait exactement ça, sans le cacher, c'est-à-dire sans dire aux gens, en fait, vous inquiétez pas, ça ne pèsera pas sur le pouvoir d'achat, parce que quand on taxe les importations, on taxe bien, effectivement, les à peu près 19% du panier de consommation des Français qui est importé.
Donc tout le monde est pour la TVA sociale, si je comprends bien, même sur des avis différents.
Pas du tout.
Et moi, je trouve quand même que ça mérite aussi d'avoir une réflexion sur est-ce que nous sommes un pays de producteurs ou un pays de consommateurs. Et on est rentré dans cette folie depuis longtemps. On se dit, ben, finalement, on va avoir du revenu universel, les produits, c'est polluant, donc on va les faire produire ailleurs. Nous, on va globalement être... on va faire consommateurs, quoi, dans la division
internationale du travail. Oui, ça, on est complètement d'accord. On avait créé, avec quelques collègues pendant un certain nombre d'années, Manifeste pour l'industrie, pour remettre des industries en France. Donc,
vous voyez...
ces délires-là, j'ai toujours trouvé ça n'importe quoi. Grosso modo, on met les trucs polluants en Chine. Non, il faut réindustrialiser, réimporter et imposer des taxes sur les produits qui ne respectent pas les droits environnementaux et sociaux. C'est non seulement du pragmatisme, ça contribue aussi à la réindustrialisation.
Je voudrais quand même... Alors, je l'entends et j'apprécie beaucoup.
Alors, rapidement, parce qu'il faut qu'on passe au dernier débat.
J'apprécie beaucoup, mais cela dit, je trouve quand même que nous devrions pousser la réflexion sur la TVA sociale, en l'occurrence, parce que 2-5% de TVA sur le taux normal, en plus, ça permet d'aller cibler toutes les importations dont vous parlez, de lisser, sans pour autant créer une guerre commerciale avec les pays concernés. Et donc, je pense que c'est potentiellement une voie qui mérite de poursuivre la réflexion en commun. Nous pourrions finir par nous retrouver, me semble-t-il.
Allez, il est 10h passé de 15 minutes, c'est l'heure du dernier débat ensemble. Je voulais qu'on parle souveraineté numérique ce matin. L'Europe peut-elle reprendre son contrôle numérique? C'était l'un des grands sujets du salon Vivatech qui a clôturé ses portes en fin de semaine dernière. La souveraineté est devenue le mot d'ordre. Mais entre le cloud américain, les puces asiatiques et le retard d'investissement en Europe, est-ce qu'on peut vraiment encore reprendre la main? Leonidas Kalogeropoulos, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Open Internet Project.
Et d'abord, merci, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'autant que l'Open Internet Project a été créé, notamment par Olivier Sichel, qui à l'époque dirigeait le guide.com.
Aujourd'hui, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Et notamment pour mener une bataille qui était Google Shopping.
Oui.
2,4 milliards d'amende. Contre
grand
Google.
Dossier bruxellois de concurrence.
12 ans d'instruction hein, avant que le premier euro ne soit versé.
Oui. Non,
donc vous faites 2,4 milliards divisé par 12, vous voyez si ça a un impact sur les comptes de Google. Mais l'Open Internet Project s'était créé avec un ensemble d'acteurs du numérique souverain, que ce soit Clever Cloud, que ce soit Weller, que ce soit comment dirais-je, Olvid ou Quant. Ce sont des acteurs qui se battent effectivement au OVH pour la souveraineté numérique et pour la capacité que nous aurions à résister. Alors, qu'est-ce que faisait l'Open Internet Project ? D'abord, on s'emparait de tous les outils d'antitrust pour mener des batailles. Mais finalement, on voit que les batailles, c'est pas en restant petit, en menant des batailles contre les gros, que l'on va gagner cette guerre-là. Il faut qu'on grossisse.
Rappelle qu'OVH, c'est 2% du marché du cloud européen.
Oui, mais c'est déjà bien que nous l'ayons, Amazon, et si nous ne l'avions pas, absolument. Nous ne serions pas capables de nous battre. Et si nous avons la chance d'y arriver, c'est qu'à un moment donné, les 50 milliards, je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, 50 milliards de dépenses publiques de commandes de numérique vers des acteurs étrangers.
Au niveau européen, rassurez-moi, parce que je vous rappelle qu'on a 130 milliards de déficit cette année, cher Léonidas.
Alors, soudain, je vous assure que je suis saisi d'un doute, je crois que les 50 milliards sont des dépenses nationales. Et en l'occurrence, dans nos commandes...
Ça va faire beaucoup.
Dans nos commandes publiques, mais la commande publique, ouais. Malheureusement, ne cible pas... D'ailleurs, vous avez beaucoup de discours sur la souveraineté...
C'est et l'un des sujets des textes européens actuellement, passent, hein, sur la souveraineté numérique
donc,
à Bruxelles.
Il y a un levier qui est absolument essentiel, c'est effectivement la commande publique, mais également la commande privée.
Oui.
Je vous rappelle que quand vous avez, et on n'arrivera pas à avoir notre souveraineté industrielle qui nous est chère à tous les quatre, si on n'a pas de souveraineté numérique, imaginez d'avoir votre, comment dirais-je, votre système numérique de gestion client qui est américain. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le kill switch de
Anthropic.
Du jour au lendemain, votre CRM peut s'arrêter parce que l'acteur américain, qui est dominant à 90%, peut se voir assigner l'ordre d'arrêter de servir tel ou tel client ou tel et tel pays. Le degré de dépendance dans lequel nous sommes, nous l'avons vu sous nos yeux ce samedi dernier à 17h21, quand soudain les États-Unis ont décidé de couper Anthropic. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment, sur n'importe quelle solution. Donc il faut que l'on rééquilibre notre puissance de feu numérique, et ce rééquilibrage, la bonne nouvelle, et on l'a vu d'ailleurs avec Vivatech, c'est que nous avons des solutions qui sont parfaitement opérationnels. Je pense à WIMI qui est une suite collaborative qui sert l'Assemblée nationale et énormément d'acteurs publics. Dans tous les domaines, nous avons les briques. Alors c'est vrai, les GAFAM, il y en a 5, ils ont tout verticalisé, ils ont tout dedans. Nous avons des solutions qui sont plus dispersées, mais on les a toutes. Structurons-nous et la bataille est gagnable.
Bon. Danny Lang.
Alors, c'est un sujet sur lequel j' ai peu de compétences, je partage largement.
C'est un sujet qui envahit notre quotidien aujourd'hui. Il y a absolument de partout.
Qui envahit notre quotidien, effectivement. Mais je voulais quand même dire une chose. Pendant très longtemps, dans les traités européens, il y avait la possibilité de donner des financements prioritaires pour les marchés publics aux entreprises nationales. Ben, je suis désolé, il va falloir revenir à ce genre de disposition parce que c'est aussi à cause de la politique de la concurrence qui, pour des raisons historiques, des raisons de souveraineté, justement, de renoncement de souveraineté, on a mis au cœur de la construction européenne. Il va falloir revenir dessus et revenir à cette vieille sagesse qui n'est pas anti-européenne, de dire les commandes publiques doivent en priorité servir les entreprises nationales. Mais ça, pourquoi aujourd'hui est-ce que les acteurs américains ont pu remporter toutes les commandes publiques ? Parce qu'ils sont beaucoup plus gros, beaucoup moins chers et beaucoup plus efficaces, quoi. Alors qu'on a des entreprises européennes qui
ont même bénéficié de la commande publique américaine. Hein.
Bien sûr.
Exactement.
Piqué aux hormones.
Et quand, comme utilisateur scientifique, quand vous utilisez les différentes IA, moi j'ai essayé d'utiliser l'IA française qui est pas mal du tout. Mais elle n'est pas au niveau de performance.
Qui arrive 54e dans le classement mondial.
Elle
n'est
pas au niveau
pour les tâches
scientifiques.
André Lecoup, Pietri, la semaine dernière.
Je la trouve beaucoup mieux que ChatGPT, mais je la trouve moins bien qu'Anthropic. Elle est beaucoup moins efficace pour tout ce qui est tâches scientifiques, modélisation, programmation, etc. Donc c'est aussi parce qu'on a ces règles européennes qui nous interdisent de prioriser la commande publique, alors que finalement l'argent public, la commande publique, c'est l'argent des Français, des Allemands, etc. Ça
bah
devrait
oui.
aller en priorité.
C'est aussi l'union des marchés de capitaux qui a tellement de mal à faire au niveau européen. Mais c'est le grand sujet du moment, hein, cette préférence européenne, Ingrid Barra.
Alors, sur deux points, je voudrais un peu dézoomer sur la souveraineté et sur le fait que, je veux dire, on est souverain que quand on a quelque chose à proposer, quand oui. on a quelque chose chez soi qui a de la
magasin,
valeur.
Oui.
D'ailleurs, on ne peut pas être souverain au sens autonome sur tous les plans. Si on voulait être en autarcie sur tous les plans, pourquoi pas, hein, mais on vivrait sans doute
choisir ses briques.
Une vie un peu plus fade et un peu plus compliquée. Donc, être souverain, c'est d'abord s'assurer qu'on a quelque chose à proposer. Et je vais dire quelque chose d'un peu provocant, mais en fait, personne ne nous doit des puces, une IA, des minéraux. Personne ne nous doit ça. Ça n'existait pas ou ça n'était pas un sujet il y a quelques années seulement. Hein. Si on remonte encore plus loin, ça n'était pas un sujet non plus. Et donc la seule raison pour laquelle, que ce soit les Chinois, les Américains ou autres, nous garantirait ou nous assurerait une forme de d'importation technologique, oui. c'est si on a quelque chose à proposer en face.
Et donc ça veut c'est dire, du rapport de force quoi.
C'est créer de la valeur pour obtenir oui. de la valeur. On pourrait tout à fait se dire qu'on serait beaucoup mieux à rester à l'époque du Minitel, mais je suis pas sûre que beaucoup de Français soient convaincus. Et pour aller avancer un peu plus dans le temps, ne serait-ce qu'à l'époque des cartes routières, je sais pas s'il y a beaucoup de Français qui seraient prêts à renoncer à Google Maps aujourd'hui. Donc sans vouloir faire de la publicité indue, pardon, hein, mais voilà. Et sur la commande publique, il y a un sujet qui est un peu mal abordé parce que si on se concentre uniquement sur le fait de dire qu'il faut que ce soit français, bon, bah, effectivement, les entreprises en conséquence seront très ravies, mais les Français, je ne suis pas sûre.
Oui.
C'est-à-dire que, effectivement, si c'était pour faire du Minitel, bon, les Français en seront peut-être pas ravis. En revanche, l'idée que, pour vous rejoindre, dans la commande publique, il y ait des critères de résilience, c'est-à-dire, effectivement, il y a des critères de dire peut-être que les forces de sécurité ou autres ne devraient pas avoir des choses qui soient débranchables sur des serveurs à l'étranger ou ce genre de chose,
oui.
ça c'est tout à fait pertinent et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder en se disant est-ce que ouais, y a certaines choses dans la commande publique qui font que on a besoin d'un peu plus de sécurité non. et la sécurité à nouveau ça se paye.
Où est-ce qu'on la met la préférence européenne
en l'occurrence on a un grand allié hein, pour cette souveraineté nationale et européenne, il s'appelle Donald Trump, à chaque fois qu'il ouvre la bouche on se dit il faut se protéger
oui.
et véritablement je suis extrêmement heureux de voir que après que on est passé des années à halluciner sur le fait qu'on ait confié à Palantir une boîte qui est née totalement de la commande publique américaine, enfin ils étaient 5, ils ont eu plusieurs
Palantir
milliards de commandes publiques.
Palantir qui fait publique, de la surveillance
hein. Bon, et qui servait
utilisé par tous les services de renseignement.
La DGSI est passée à Chaps Vision, qui est une boîte extraordinaire et dont on n'entend pas beaucoup parler.
Alors, Palantir a démenti la semaine dernière. Je n'ai pas la vérité entre les deux points de vue, mais la DGSI effectivement
la DGSI a dit
sortez Palantir et Anthropique a dit
il
y
avoir une partie de contrat qui reste qui permet de démentir, mais enfin l'essentiel est passé à Chaps Vision. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à passer à Chaps Vision? Parce que Chaps Vision existe.
Ah oui.
Et est-ce que Chaps Vision était aussi gros que Palantir quand Palantir non. Mais donc, si on ne commence pas à mener ce combat, on reste petit. Et celui qui est petit, eh bien, quand on lui donne des moyens, eh bien, il devient plus grand. Là, les réflexes auxquels on assiste, Clever Cloud et OVH ont été invités par la Commission européenne à offrir une solution cloud qui soit efficace. Quant a été invité à offrir une solution de recherche à la place de Google. Donc, petit à petit, on est en train de reconquérir du terrain. Et ici même, autour de cette table, je me souviens d'un de vos prédécesseurs qui me disait mais les gars, est-ce que Quant un jour pourra rivaliser véritablement oui. avec Google? Je dis mais ça demande un certain nombre de conditions. Une de ces conditions est en train d'être remplie, c'est que ce qui a permis à Google d'être ce qu'il est aujourd'hui, qui est une masse d'apports financiers et de commandes publiques, eh bien petit à petit, il y a la commande publique qui arrive. Et là où je suis bien entendu d'accord avec Ingrid Barra, c'est qu'il ne s'agit pas d'être obsessionnel et de commencer à entretenir des petites boîtes qui n'auraient pas une ambition de performance. Il faut avoir cette ambition de performance et il faut offrir aussi bien et idéalement beaucoup mieux à nos clients nationaux et européens.
Mais sauf que c'est absolument pas le cas aujourd'hui, Léonidas.
Il faut commencer, une domination technologique écrasante
et des Américains.
Et si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais.
Il faut commencer. Et par ailleurs, n'oublions pas donc que le Palantir, etc. C'est le résultat déjà du non-respect de la propriété intellectuelle d'autrui. Hein. Google Maps a été volé aux Allemands, à des Allemands qui avaient inventé le système dans les années 90. Et c'est aussi des subventions publiques massives, etc. Moi, je suis pas d'accord avec vous pour dire que les Français, c'est que le Minitel. Le Minitel, c'était une invention géniale, mais on a aussi Quant, qui, j'en suis désolé, moi, je trouve ça mieux que Google, parce que les résultats sont très efficaces, beaucoup plus objectifs et beaucoup
moins
orientés.
Vous utilisez Quant au quotidien ?
Quant, et à l'étranger, quand Quant n'est pas disponible, j'utilise Ecosia. Mais j'utilise Quant au quotidien, parce que c'est beaucoup plus efficace que Google, quand on fait des recherches. Et par ailleurs, OVH, c'est une des entreprises formidables. On a le potentiel en France et en Europe pour faire concurrence, mais on n'a pas mis l'argent public massif qu'ont mis les États-Unis dans ces entreprises.
Un
mot très simple, vous parlez de l'union des capitaux tout à l'heure, ça suppose d'avoir un environnement fiscal et un environnement réglementaire extrêmement compétitif, et donc à nouveau recentrer l'État seulement sur l'indispensable, et ça peut être effectivement dans la commande publique quelque chose de résilient.
Vous dire qu'il y a Numérique France Garantie qu'on a lancé avec Origine France Garantie pour mettre ensemble, voyez, la souveraineté industrielle et la souveraineté numérique qui vont de pair.
Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Léonidas Kalogeropoulos, Dany Lang et Ingrid Barra, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business.